Vous écoutez, on lit pour vous.
Un Excel gratuit, la tablette ou le PC, l'authentification gouvernementale. Un texte d'Alan McKenna, paru le 31 décembre 2025 dans la presse. Un lecteur, Michel Côté, demande « Suite à une augmentation du coût annuel d'abonnement, j'envisage de quitter Microsoft. Y a-t-il des logiciels compatibles plus abordables vers lesquels je pourrais transférer certains fichiers, particulièrement des classeurs Excel ?» Les abonnements mensuels finissent par peser lourd. La bonne nouvelle est que le format Excel n'est pas la priorité exclusive de Microsoft. Pour une solution gratuite et robuste qui s'installe directement sur votre ordinateur sans recourir à l'Internet, la référence est LibreOffice. Son logiciel Calc est le petit cousin gratuit d'Excel. Il ouvre, modifie et enregistre vos fichiers XLSX avec une très grande fidélité. Si vous préférez travailler dans un navigateur web, Microsoft offre une version en ligne de sa suite Office qui comprend Excel, PowerPoint et Word et qui est accessible gratuitement. Google Sheets est une autre option gratuite très performante pour les besoins du quotidien. Un petit bémol, si vos fichiers contiennent des macros, soit des scripts d'automatisation complexes, ils pourraient ne pas fonctionner. Pour des listes ou des calculs standards, la transition se fait généralement sans douleur. Vous ne perdez rien à essayer avant d'annuler. Un lecteur, Pierre Lavergne, demande « Est-il vrai que la tablette est plus sécuritaire que l'ordinateur dans des transactions bancaires puisque personne ne peut prendre le contrôle de la dite tablette comme c'est le cas pour un ordinateur ?» Oui, de manière générale, une tablette iPad ou Android offre un environnement plus hermétique qu'un ordinateur traditionnel pour vos transactions. La raison réside dans la conception même de ces appareils. Contrairement à un PC, à système Windows, où un logiciel malveillant peut s'installer en silence et espionner tout ce qui s'y passe, les applications sur tablette fonctionnent en vase clos. Elles ne peuvent pas voir ce que font les autres applications sans votre permission explicite. Quant à la prise de contrôle à distance, bien qu'elle ne soit pas théoriquement impossible, elle est infiniment plus complexe à réaliser sur tablette. Un pirate doit vous convaincre de télécharger une application de support spécifique et de valider plusieurs alertes de sécurité. Cela dit, la tablette ne vous protège pas contre vous-même. Si vous entrez vos codes sur un faux site bancaire, par hameçonnage, le vol aura lieu, peu importe l'appareil. La vigilance reste toujours de mise. Une lectrice, Francine Baillargeon, demande « Le service d'authentification gouvernementale requiert beaucoup de renseignements comme le NAS, une mine d'or pour les cyberpirates. Est-il sûr ?» Le numéro d'assurance sociale, NAS, est le Graal des fraudeurs et on nous répète constamment de ne jamais le confier à personne. Il y a des exceptions. Le gouvernement possède déjà cette information à votre sujet. Lors de l'inscription au service d'authentification gouvernementale, le NAS ne constitue pas une nouvelle mine d'or, mais cela confirme simplement que la personne devant l'écran correspond au dossier existant. C'est une comparaison, pas une récolte. En réalité, cette exigence vous protège. Si l'accès était trop simple, un usurpateur pourrait facilement créer un compte à votre nom et détourner vos prestations. Aucun système informatique n'est infaillible, mais les protocoles de chiffrement utilisés par l'État pour ces transactions sont robustes. Le risque zéro n'existe pas, mais le danger de laisser votre identité numérique gouvernementale sans protection adéquate est bien plus grand. C'était un Excel gratuit, la tablette ou le PC, l'authentification gouvernementale. Un texte d'Alain McKenna, paru le 31 décembre 2025 dans la presse.
Splendeur et misère d'un fleuron énergétique. En sous-titre, la crise du verglas est un miroir riche en enseignements pour penser la transition énergétique. Un texte de Louis-Maude Rioux-Soucy, publié dans Le Devoir du 23 décembre 2025. L'habit ne fait peut-être pas le moine, mais il peut contribuer à forger une impression de contrôle. En 2022, au plus fort de la crise énergétique en France, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a troqué la cravate pour le col roulé, imité par le président Macron. Ce symbole de sobriété, les Québécois en connaissent une variante puissante, gracieuseté d'André Caillé. En 1998, à la faveur de la crise du verglas qui a mis le réseau d'Hydro-Québec à genoux, il en a fait le porte-étendard de notre résistance énergétique. Ce fut d'abord un geste spontané. Débarqué en catastrophe à Saint-Hyacinthe, mal préparé pour le froid mordant, le PDG d'Hydro-Québec s'est fait offrir un col roulé par son chauffeur. Le port du vêtement, frappé du logo d'Hydro, est vite devenu un acte de solidarité avec les travailleurs pour se transformer, au terme des 35 jours que dura cette crise, en symbole de la résilience de notre fleuron énergétique. Les premières gouttes commencent à tomber le 5 janvier. Le 9 janvier, le Québec est paralysé. Montréal n'est plus alimenté que par un seul fil. La métropole est sur le point de manquer d'eau, mais elle est aussi impossible à évacuer car tous ses ponts sont impraticables. Quelques 3,5 millions de Québécois sont privés de courant. Aux côtés d'un premier ministre, Lucien Bouchard, au sommet de ses moyens, le patron d'Hydro-Québec affiche une assurance rassurante. En son fort intérieur, il en est à prier pour que la pluie cesse. Le ciel s'éclaircira enfin. Sur le terrain, c'est la désolation. 24 000 poteaux de bois, 900 pylônes et 3 000 km de lignes électriques céderont sous le poids des quelques 100 mm de verglas. On pleurera 30 morts. Dans le triangle noir, les jours de paralysie deviennent des semaines. Le Québec découvre la vulnérabilité d'un réseau qu'il ne soupçonnait pas. La population se serre les coudes, rassurée par le tandem que forment Bouchard et Caillé, le premier en père de la nation qui sait où il va, le second en lumière scientifique qui sait comment y aller. Cet état de grâce ne résistera pas à la longue reconstruction qui suivra, encore moins aux changements prescrits par la commission Nicolet. Marqué au fer rouge par la crise, André Caillé poussera les travaux jusqu'à devenir la bête noire des écologistes et des groupes citoyens. Ceux-ci ne lui pardonneront ni la précipitation entourant la ligne Hertel des cantons, ni la centrale thermique du Suroît, sur laquelle Québec finira par mettre une croix. Cet immense chantier a des parentés avec celui que pilote l'actuel PDG d'Hydro dans un Québec qui s'est donné pour objectif de devenir le premier État carboneutre en Amérique du Nord d'ici 2050. On parle tout de même d'investissements de 155 à 185 milliards de dollars d'ici 2035. Ça ne pèse pas que sur nos finances publiques. Le paysage aussi va changer, a prévenu Claudine Bouchard. Citation : Il va y avoir plus d'éoliennes, plus de pylônes, plus de lignes de transport. Fin de citation. Avec tout ce que cela comporte de risques démultipliés, la tempête de 1998 a été qualifiée d'historique. Les risques qu'elles se reproduisent à l'identique sont faibles. Les changements climatiques annoncent toutefois une intensification et un rapprochement des épisodes de verglas qui vont mettre le réseau à l'épreuve. Si plusieurs des leçons de la commission Nicolet ont été tirées et mises en place, autant sur les plans techniques, politiques ou logistiques, des bonds de géants ont été franchis, le réseau reste vulnérable. Hydro-Québec a dû lancer deux alertes de défaillance de puissance les 3 et 5 décembre. Le service aux résidents n'est pas jugé à la hauteur dans 1800 zones du territoire. En progression ces dernières années, les pannes restent une bête noire que la Société d'État s'est engagée à réduire de 35% d'ici 10 ans. Le défi est d'autant plus grand qu'au fur et à mesure qu'on élargira l'électrification de nos activités quotidiennes, condition essentielle à l'abandon des énergies fossiles, notre intolérance aux pannes va grimper. Sans compter le fait que près de la moitié de l'énergie totale produite au Québec est perdue et n'apporte aucune valeur à l'économie, selon le baromètre de Prospera. Avant de songer à produire plus, il faudrait s'attaquer de front à la désinvolture et au gaspillage énergétique qui fleurissent au Québec. Mais ce n'est pas gagné avec un gouvernement qui mise sur un plafonnement rigide des tarifs et valorise la distribution de blocs aux industriels, au point de pousser l'ex-PDG Sophie Brochu à s'inquiéter de voir le Québec devenir le Dollarama de l'électricité. Ce l'est encore moins avec une régie de l'énergie au pouvoir rétréci par le gouvernement Legault. Les Québécois n'ont pas oublié les leçons de la crise du verglas, ni celles de la reconstruction qui a suivi. Il faudra donc se lever de bonne heure pour leur imposer une transition énergétique qui en ferait fi. Fin de ce texte de Louise Maude Riosucci, titré « Splendeur et misère d'un fleuron énergétique », publié en éditorial du Devoir du 23 décembre 2025.
Nous ne sommes pas grand-chose, et c'est tant mieux. Un texte de Marissa Grosguet, paru le 28 décembre 2025 dans La Presse. Le fait d'envisager notre propre vie en constatant notre microscopique place dans l'univers a le potentiel d'atténuer nos maux en leur attribuant leur réelle importance, tout à fait négligeable en perspective. Avez-vous déjà visionné l'une de ces vidéos expliquant l'étendue incommensurable du cosmos? J'en ai vu une récemment sur TikTok. Le physicien et professeur québécois Stéphane Durand illustrait l'immensité de notre univers en exposant que la lumière file à la vitesse de 300 000 km seconde. Ainsi, la lumière de l'objet le plus proche de nous, celle de la Lune, met une seconde à nous arriver. Celle du Soleil, 8 minutes. Celle de Pluton, de 4 à 6 heures. Et ainsi de suite. Jusqu'à la prochaine étoile, après le vide sidéral qui entoure notre système polaire, Proxima du Centaure, dont la lumière met 4 ans à se rendre à nous. La lumière d'Andromède, la galaxie la plus proche de la nôtre, met 2 millions d'années à nous atteindre, explique le scientifique. La courte vidéo extraite de l'émission balado MAKR, se termine ainsi. On comprend qu'on peut continuer longtemps encore à situer l'immensité du cosmos avec des chiffres faramineux et intangibles. Cette vidéo TikTok m'est restée dans la tête, contrairement aux vidéos de bébés et de chiots que je consomme aussi avidement. Je me suis mise à réfléchir à ce que mon existence, en tant que tout petit humain, sur une toute petite planète, signifie vraiment dans cette immensité. Surtout, quelle est l'importance de mes soucis futiles du quotidien quand je pense à l'histoire de l'humanité, de la Terre, de notre galaxie et de l'univers? Isabelle Chouinard, professeur de philosophie à l'Université du Québec à Montréal, UQAM, m'a parlé de l'exercice du « regard d'en haut » que pratiquaient les anciens philosophes. Plusieurs textes anciens décrivent cet exercice par lequel un philosophe quitte son point de vue personnel pour regarder le monde humain à partir du ciel ou de l'espace, explique-t-elle. Cela rend évidente la futilité des objets convoités par les humains. La perspective cosmique adoptée dans le regard d'en haut établit une distance psychologique suffisante pour relativiser la valeur que l'on accorde au pouvoir, à la richesse, à la gloire, aux objets. Cette valeur est le fait de conventions humaines et se dissipe quand on observe. Dans la mesure où l'on estime que l'univers a un sens, comme c'était le cas pour Platon ou les stoïciens, se concevoir comme une petite partie de l'univers peut calmer les anxiétés, indique Isabelle Chouinard. On peut se dire qu'on a confiance en l'univers et que rien n'arrive pour rien. Cela permet de passer à travers des épreuves de la vie plus facilement. Ainsi, mes préoccupations, qui font obstacle au bonheur véritable, peuvent être repoussées. Je ne suis pas le centre de l'univers, encore moins le centre de l'attention des gens. Personne ne me juge. Tant que je fais le bien, mon incidence dans l'univers n'est pas bien importante. Et c'est tant mieux. Je peux vivre ma vie, y trouver le bonheur, sans la pression que j'ai tendance à conférer à mon quotidien. Le bonheur et le sens de l'univers. Bien sûr, on doit s'imposer des limites dans cette perception de soi pour ne pas sombrer dans un extrême dommageable, soit une impression qu'il ne sert à rien de vivre puisque l'on n'est qu'une poussière dans l'univers. « Si on minimise trop notre propre importance, » dit Mme Chouinard, « on peut tomber dans la négligence de soi. Le problème ici serait une perte de repère entraînée par une espèce de vertige cosmique. Selon que l'on croit que l'univers a un sens ou non, on peut traiter différemment ce vertige, » dit la professeure. Pour Platon et les stoïciens, c'est l'univers qui confère un sens à la vie humaine, et ce sens requiert que nous prenions soin de nous, et donc que nous nous accordions un minimum d'importance. Pour Épicure, même si l'univers n'a pas de sens, la vie humaine en a un, que l'on peut trouver en nous-mêmes, poursuit Isabelle Chouinard. Nos sensations nous poussent naturellement vers le plaisir. Une vie heureuse sera donc une vie agréable. Nous n'avons peut-être aucune importance dans l'univers, mais cela ne veut pas dire que notre quête du bonheur est vaine. Il est ainsi tout aussi bon de nous rappeler notre insignifiance, pour amoindrir nos peines, que de profiter de cette chance que l'on a d'être l'une de ces poussières qui forment l'univers pour amplifier nos bonheurs. À méditer, la prochaine fois que vous contemplerez un ciel étoilé. C'était « Nous ne sommes pas grand-chose, et c'est tant mieux ». Un texte de Marissa Grosguet, paru le 28 décembre 2025 dans La Presse.
Trouver refuge dans les musées pour notre bien-être. Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 23 décembre 2025 dans La Presse. Il y a des moments où la vie tourbillonne fort dehors ou dedans et où on a besoin de prendre une pause. Certains d'entre nous ont déjà réalisé que les musées sont de bons endroits pour se réfugier dans un environnement paisible qui appelle parfois même au recueillement. Et ce n'est pas qu'une simple impression. Le musée favorise un sentiment de bien-être, dit la neuroscientifique Emma Dupuis, qui est à l'origine d'une étude menée au Musée des beaux-arts de Montréal, MBAM, depuis 2019. On s'est demandé ce qui se passait dans le corps d'une personne lorsqu'elle visitait un musée et à quel point ça pouvait être bon pour la santé, explique la chercheuse qui a fait son post-doctorat en neurosciences cognitives à propos des arts visuels. Pour cette étude pilote, les participants ont fait la visite avec un casque de spectroscopie infrarouge. Des électrodes mesuraient la circulation sanguine à la surface du cortex. On voulait savoir si l'œuvre d'art était un ingrédient actif, ajoute Emma Dupuis. La réponse est oui. Il faut quand même une forme d'engagement actif de la personne pour que, une fois qu'elle sort du musée, elle se sente plus détendue, détaille Emma Dupuis. Pourquoi? La scientifique rappelle que de se concentrer fortement sur une chose ralentit le rythme cardiaque, comme la méditation. Bien-être pour tous. Dans cette recherche toujours en cours, on veut notamment savoir comment les visites guidées peuvent profiter de ces nouvelles connaissances. On veut susciter l'engagement des visiteurs avec ce qu'ils voient, autant dans les expositions temporaires que les collections permanentes, explique Mélanie Devaux, directrice de l'éducation et de l'engagement communautaire du MBAM et titulaire de la chaire Ariane Rioux et Réal Plourde pour l'art et l'éducation au service de la communauté. À l'instar de plusieurs institutions du monde, le Musée montréalais travaille avec des clientèles particulières dans certains projets. Il offre notamment des ateliers pour ralentir avec l'apport d'organismes communautaires. On y voit moins d'œuvres, on s'intéresse à chacune plus longtemps. Les études démontrent qu'il y a un bénéfice sur une certaine population, précise Mélanie Devaux. Ces recherches sont assez sérieuses pour avoir mené à un mouvement de prescription muséale où des médecins prescrivent des visites à certains patients. Ça se fait ici, ça se fait ailleurs aussi. Ce n'est pas tout. Le Musée des beaux-arts de Montréal a également participé à un programme avec la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. De futurs médecins sont allés faire une visite. Mélanie Devaux explique que l'exercice comporte plusieurs bienfaits, mais notamment celui de réaliser que devant une même œuvre, tous n'ont pas la même réaction. Puis, il y a les multiples bienfaits pour tous les visiteurs, peu importe la profession et la condition, perspective sur le monde, calme, stimulation de l'imaginaire, pause d'écran. Le musée est aussi une prescription sociale, maintient Mélanie Devaux. Ces activités contribuent à briser l'isolement, dit-elle, à créer des liens sociaux et même à stimuler un sentiment d'appartenance. Souvent, on va au musée ou dans une galerie avec un proche, mais même seul, le visiteur va avoir des interactions avec des gens. Ceux qui vont l'accueillir, ceux qu'il va croiser. Quand on vient au musée, on connecte avec soi d'abord, rappelle Mélanie Devaux. L'œuvre nous amène dans des endroits du monde, dans des époques, dans des problématiques, des sujets. Contempler et marcher dans les musées. Le Musée des beaux-arts de Montréal est loin d'être la seule institution à cheminer dans cette direction de la santé globale. Le mouvement est mondial. En 2019, un rapport de l'OMS déclarait que l'art fait du bien à la santé, tant mentale que physique. Le Musée des beaux-arts du Canada vient d'annoncer qu'il adhère aussi au mouvement de prescription muséale. L'éducatrice en art Andrea Gumpert s'intéresse depuis longtemps au bien-être qui émane de la visite au musée. Il y a 10 ans déjà, elle a lancé un projet pilote au Grand Musée d'Ottawa auprès de gens atteints de démence et pour leurs proches aidants. « Je trouvais, dit-elle, que c'était une autre façon de rendre le musée accessible à une autre sorte de public. On utilise l'œuvre d'art comme point de départ pour avoir des conversations », poursuit Andrea Gumpert. Lorsqu'elle a fait un atelier autour de l'œuvre de 1954, Pavane, de Riopelle, les participants avaient beaucoup à dire. « L'art nous permet d'imaginer, dit-elle. Il faut prendre le temps. » En 2023, le Musée des beaux-arts du Canada s'est inscrit au Slow Art Day, un mouvement qui, tel que son nom l'indique, invite à la lenteur. On y consacre une journée par année. La prochaine est le 11 avril 2026. À Ottawa, cela a mené au Dimanche de contemplation guidée, une fois par mois, un atelier inclus avec le billet d'entrée. Andrea Gumpert est responsable du volet mieux-être de l'institution nationale. Elle a participé au sommet du bien-être dans les musées l'année dernière. Le prochain événement se tiendra en mode virtuel en janvier 2026 et réunira des représentants de nombreuses institutions prestigieuses, dont le Tate de Londres, le MoMA de New York et le Musée national des beaux-arts du Québec, qui a aussi une offre bien-être, notamment par des séances de muséo-yoga. Le Musée des beaux-arts d'Ottawa s'intéresse également aux bienfaits physiques. Quiconque connaît le musée sait qu'il est très grand. Alors, on y a créé un groupe de marches hivernales. Cette fois, même pas besoin de billets d'entrée. Il suffit de se présenter au moment défini, le vendredi matin, et de faire une marche à l'abri des intempéries. Évidemment, la direction du musée souhaite éveiller la curiosité des marcheurs. C'était « Trouver refuge dans les musées pour notre bien-être », un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 23 décembre 2025 dans la presse.